Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Sporama. 30 minutes de résultats, de réactions et d'analyses sur tous les terrains. Au menu du jour, du football bien sûr, et pas de CAN en 2025 pour la Guinée. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a officialisé la décision avant d'assister au tirage au sort du CHAN en Algérie. Et puis, le handball avec la Coupe d'Afrique des clubs champions hommes et dames qui se déroule en Tunisie. Mes éternels consultants sont là pour en parler. Amine Birouk de Casablanca au Maroc est avec nous. Bonsoir Amine.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
On se rend à Kinshasa en RDC pour retrouver Valdo Simon Yamba. Bonsoir Valdo.
Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. Heureux de vous retrouver.
On traverse le Congo Brazzaville pour joindre Jules Valentin Ngoué à Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
Et puis lui est aux États-Unis où se trouve la radio. Amédine Si du côté de Columbus dans l'Ohio. Amédine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Enfin, toujours en direct de ce studio, Lawal Dine Kosovo pour animer avec moi. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée, bonsoir aux auditeurs de VOA Afrique.
Allez, on y va. C'est officiel. La Guinée n'organisera pas la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, présent à Conakry, a disputé de ce retrait avec les autorités guinéennes avant de le rendre public. Le patron du foot africain, au cours d'une conférence de presse, a expliqué les raisons et a lancé un nouvel appel d'offres. Il est au micro de nos confrères de RFI.
Nous avons pris la décision de lancer un nouvel appel à candidature. Tous ceux qui veulent accueillir la CAN en 2025 sont les bienvenus. Je sais qu'environ 10 pays sont intéressés et j'encourage tout le monde. Mais je demande surtout que toutes les compétitions qui seront organisées dans le futur par la CAF se déroulent dans des stades conformes aux standards internationaux, avec des installations de qualité pour les médias, pour les supporters, les pelouses, l'offre hôtelière. Tout ça doit être aussi au niveau. On doit proposer ce qui se fait de mieux.
Alors, Amédine, c'est la fin d'un faux suspense dont la capacité du pays à tenir les délais était mise en doute.
Tout à fait, Élisée. Les responsables de la Confédération africaine de football n'ont fait qu'officialiser une information que tout le monde connaissait déjà. Donc, ce n'est pas une surprise. Au contraire, tous les observateurs avertis savaient bel et bien que la Guinée ne pouvait pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en raison non seulement du manque d'infrastructures sportives, mais également des installations capables d'accueillir la grande messe du football continental. Donc, il fallait trancher avant que cela ne soit trop tard et la CAF a tranché. Mais c'est regrettable, car en 2019, les responsables du foot africain avaient retiré aussi l'organisation de la CAN au Cameroun. C'était à la dernière minute, je pense, qu'il est temps maintenant que la CAF essaye de revoir quand même le mode d'attribution de compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations, qui est la vitrine du football africain Élysée.
Justement, la Guinée avait 6 stades à bâtir, sans parler des diverses infrastructures connexes, terrains d'entraînement et hôtels, le tout en 3 ans. Lawal, le doute planait depuis 2014 quand la CAF a décidé d'attribuer cette CAN à la Guinée sans un appel d'offres.
Oui, Élisée, on avait souhaité que la Guinée puisse organiser cette compétition. Et si, en 2014, elle avait reçu donc l'onction de la CAF avec une rallonge du délai après 2014, et si aujourd'hui, en 2025, elle ne semble pas prête pour cette compétition, ça veut dire que, fondamentalement, les autorités guinéennes n'ont pas pris les mesures qu'il fallait pour être à jour vis-à-vis donc des infrastructures de la CAF. Et quand on se rappelle, il y a quelques semaines en arrière, quand le président de la Fédération nigérienne de foot annonçait donc l'incapacité de la Guinée à organiser cette compétition, on avait crié au scandale. On avait estimé que c'était pas possible qu'ils le disent comme ça. Et les autorités guinéennes sont montées au créneau pour dire qu'elles pouvaient le faire, notamment le président de la Fédération. Mais aujourd'hui, les faits donnent raison à Amadou Pinique.
À l'ancien président de la Fédération nigériane.
Oui, Amadou Pinique avait trouvé juste. Et si la CAF a décidé du retrait aujourd'hui. C'est donc de guerre lasse que la CAF l'a fait et on souhaite que les autorités guinéennes puissent mettre en place les stratégies nécessaires pour construire les stades qu'elles doivent construire et les infrastructures connexes afin qu'un jour la Guinée soit prête, j'espère, Élisée.
Voilà, un appel à candidature a d'ailleurs été lancé, comme je l'ai dit, pour une nouvelle attribution. Et Amine, le Maroc a montré son désir.
On verra dans quelle mesure les autorités du pays vont donner le feu vert à la FRMF pour pouvoir concrétiser cet objectif et cette ambition. Le Maroc ne manque pas d'atouts, les stades sont prêts, les hôtels, les aéroports, les infrastructures routières, aéroportuaires sont déjà au top. Il va falloir juste, bien évidemment, mettre un peu à niveau des standings de 2025 tout ce package et surtout compter sur une politique de lobbying pour pouvoir convaincre le comité exécutif des atouts du royaume chérifien qui s'attend, bien évidemment, à une rude concurrence, notamment de la part de l'Afrique du Sud. Mais visiblement, le Maroc ne manque pas d'atouts et surtout le fait qu'il n'ait organisé qu'une seule fois la CAN en 1988, ce qui remonte exactement à près de 34 ans, ça reste aussi un élément à prendre en compte au moment du vote final.
Voilà. Et outre le Maroc, 9 autres pays ont aussi montré leur intérêt selon la CAF. Le futur organisateur de la CAN de 2025 sera connu d'ici peu. Patrice Moussepe s'est rendu à Alger pour le tirage au sort du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent. Une première à 18 équipes reparties dans 5 groupes. Le pays hôte, l'Algérie, se retrouve dans un groupe A qui semble à sa portée avec la Libye, l'Éthiopie et le Mozambique, Lawal.
C'est vrai, Élisée, que dans ce groupe, l'Algérie semble surclasser toutes les autres nations. La Libye, l'Éthiopie et le Mozambique semblent les petits poussets du groupe, mais il faut fondamentalement que les Algériens puissent faire attention parce que le foot, c'est pas mathématique.
Voilà.
C'est pas mathématique. Et cette organisation du CHAN en Algérie, avec l'intention d'Alger d'avoir la CAN pour 2025, le pays a donc intérêt à sortir tous ses pignons afin d'avoir une belle organisation de cette compétition.
Non seulement aussi de chercher à remporter le trophée.
Remporter le trophée et ça pourrait peut-être peser dans la balance pour l'attribution de la CAN à l'Algérie. Parce que l'Algérie, depuis 90, n'a plus eu cette chance d'organiser une CAN. Donc, on espère donc que les Algériens vont avoir une compétition excellente afin de pouvoir peser dans la balance pour l'organisation de la CAN, Élisée.
Merci, Lawal. Dans la poule B, nous avons la RDC, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Valdo, c'est pratiquement le groupe de la mort.
En quelque sorte, Élisée, ça va être difficile à jouer dans ces groupes B du championnat d'Afrique des Nations. Ainsi en a décidé les tirages au sort. Il n'y a pas de novices dans ces groupes. Chaque pays viendra pour jouer sa partition et s'étirer avec un ticket qualificatif au prochain tour. Fort de ses deux titres en 2009 et 2016, la RDC va devoir s'employer et s'appliquer en même temps pour la réputation qu'elle s'est faite. Certes, qualifiée, la sélection congolaise n'a pas du tout rassuré, peut-être, qu'elle pourra s'améliorer avec le démarrage du championnat national pour permettre aux joueurs d'avoir du rythme durant cette compétition. Pays hôte de la première édition, la Côte d'Ivoire, toujours derrière, son premier titre qui n'arrive pas sous l'impulsion psychologique de la sélection A, championne d'Afrique en titre, le Sénégal peut bien prétendre au double CAN et CHAN. Mais attention, il faudra toujours surveiller l'Ouganda qui s'est qualifié en battant la Tanzanie en aller-retour.
On revient vers vous à Médine. De retour dans cette compétition, les Lions de la Teranga n'ont pas été épargnés.
Oui, Élisée, le Sénégal qui retrouve le CHAN après 11 ans d'absence n'a pas été épargné. Les Poulains de Papio doivent donc sortir le grand jeu. S'ils veulent sortir de ce groupe à se relever, il faut le reconnaître, car la RDC qui a remporté le trophée en 2009 à Abidjan est un gros morceau. D'ailleurs, les Congolais avaient éliminé les Sénégalais en demi-finale. Donc, ce match aura un parfum de revanche pour les Lions locaux. Les Sénégalais affronteront aussi les Ivoiriens. Comme vous le savez, les confrontations entre Sénégalais et Ivoiriens ont été toujours des matchs très palpitants. Après ça, le Sénégal aura comme adversaire l'Ouganda, que je trouve c'est un adversaire jouable, hein, mais comme le football sénégalais a le vent en poupe, pour les Poulains de Papio tenteront quand même de surfer sur cette vague pour pouvoir quand même offrir au Sénégal, pourquoi pas, le trophée continental lors de ce champ Élysée.
Un premier titre, c'est d'ailleurs le défi à relever selon Pap Thiaw, entraîneur de cette équipe locale du Sénégal, afin de réaliser le doublé Cannes-Chan, même si ça s'annonce difficile.
Il y a un groupe où nous, on tombe dessus, on est le Sénégal, on tombe sur le groupe de la mort, qui n'est pas du tout facile avec la Côte d'Ivoire et Ouganda, et aussi il y aura la RDC. Donc on sait qu'il n'y a rien de facile dans cette compétition. Voilà, on va bien se préparer pour venir bien représenter notre pays et aller le plus loin possible.
Le double tenant du titre, le Maroc, est logé quant à lui dans le groupe C en compagnie du Ghana, du Soudan et Madagascar. Amine, de gros adversaires pour une équipe olympique marocaine qui va prendre part au tournoi.
De gros morceaux pour l'équipe du Maroc U23 qui aura le double privilège de défendre deux titres conquis en 2018 et 2020 par l'équipe nationale locale. Aujourd'hui, la mission est très simple. Comment faire avec un groupe rajeuni qui aura peut-être à l'esprit d'accumuler le maximum de matchs pour pouvoir préparer la CAN de la catégorie qui aura lieu au mois de juin suivant et qui sera qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris. Face au Ghana, finaliste en 2009, on connaît un peu la réputation des clubs ghanéens avec des joueurs très doués techniquement. Face à Madagascar qui a été la surprise de la CAN 2019 et qui aura pour ambition de faire aussi bien pour son baptême de feu dans le Chan. Et puis face au Soudan, et on connaît un peu le duo El Merrikh et El Hilal qui sont de sacrés clients en compétition continentale. Voilà en tout cas les adversaires sur le papier. Il va falloir maintenant très vite se déterminer ce que le Maroc va garder comme entraîneur Hossein Amouta, ou bien il aura fait cette pige ou cette double pige face au Sénégal qui s'est soldée par deux lourdes défaites, qui le remplacera, et surtout est-ce que la Fédération marocaine de football va garder en ligne de mire cette stratégie qui consiste à mettre en compétition l'équipe U23 sans la renforcer avec des joueurs plus expérimentés, des botolistes qui ont disputé des centaines de rencontres continentales, que ce soit avec le WAC, avec Berkane ou avec le Raja Casablanca.
Le Mali, finaliste malheureux de la précédente édition, est dans le groupe D avec l'Angola et la Mauritanie. Quant au groupe E, il est composé du Cameroun, du Congo-Brazzaville et du Niger. Jules, un groupe abordable?
Pas si abordable que cela, Élisée, sauf si on avait dans l'esprit la jauge habituellement utilisée lorsqu'il s'agit d'évaluer les équipes nationales fanions. Mais attention, ici nous sommes au CHAN, une compétition qui ne concerne que les sélections de joueurs opérant au pays. Et là, la part belle revient aux États à championnats relevés comme ceux d'Afrique du Nord ou certaines nations subsahariennes régulièrement convaincantes au niveau des compétitions interclubs sur le continent. Viennent ensuite les pays utilisant en équipe première des joueurs majoritairement locaux, comme c'est le cas pour le Niger, une sélection qu'il faudra prendre au sérieux, d'autant plus que ce pays est aussi réputé pour sa formation des jeunes. Le Cameroun, par sa renommée et sa présence dans le carré d'as du dernier CHAN, sera attendu à toutes ses sorties où il devra gérer le statut épineux de favori de groupe. Le Congo-Brazzaville, le pays où le beau jeu est roi, ne manquera pas cette occasion de révéler de nouveaux talents. Les forces sont donc équilibrées et seule une bonne préparation ainsi qu'un plus grand réalisme en attaque feront la différence.
Précisons que la 7e édition de cette compétition se déroulera du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. tirage au sort, celui de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de handball qui a eu lieu au Sénégal. C'est le siège du comité olympique à Dakar qui a servi de cadre pour l'événement. Le pays hôte, le Sénégal, est tombé dans la poule C en compagnie du Cameroun, de Madagascar et de la Côte d'Ivoire. Amédine, un groupe à la portée des Lions.
Ah oui, Élisée, il faut le reconnaître, cette poule est jouable pour les Lions qui sont en quête de premier sacre continental. Je pense que les Lions doivent d'abord bien négocier ce premier tour et elles pourront ensuite compter sur l'appui du public pour franchir cette première étape. Si elles parviennent quand même à passer cette première étape, elles vont quand même croiser de gros cylindres comme l'Angola, triple tenant du titre, la Tunisie ou l'Égypte. Mais il faut reconnaître que le Sénégal veut quand même relever le défi de l'organisation et de la participation, et cela passe par un exploit, car il faut nécessairement battre de très grandes équipes pour pouvoir remporter le trophée continental. C'est la mission du Sénégal et on verra ce que les Lions vont faire lors de cette compétition Élysée.
Voilà, une ambition qui amène la sélection pour un stage en France. On écoute l'entraîneur Yacine Messaoudi qui revient aussi sur le tirage.
C'est un groupe avec trois niveaux d'adversité à mon sens. Madagascar qui est une équipe neuve dans le contexte africain. Une équipe de la Côte d'Ivoire qui relance un projet qui va avoir elle aussi besoin d'un peu de temps pour arriver à maturité. Et enfin le Cameroun qui est vice-championne d'Afrique en titre et qui sera à mon sens le gros choc de cette poule. Actuellement nous sommes en France. En train d'effectuer un stage très très important parce qu'à la fois on intègre de nouvelles joueuses, on essaye de stabiliser ce qu'on a pu voir il y a déjà plusieurs mois. Donc c'est un moment très important pour maintenir la cohésion, redynamiser l'esprit d'équipe. J'ai envie de dire peaufiner aussi ce qu'on a pu mettre en place sur le projet de jeu. Et puis elle nous servira à nous évaluer avec trois matchs et un tournoi international.
Voilà, donc Jules, ça va se jouer pratiquement entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun.
Certainement, Élisée. Si on en croit le standing, les parcours et le potentiel humain de ces trois nations qui se présentent toutes comme des outsiders de premier plan, ayant les moyens de défier au finish l'ogre angolais. Le Sénégal, le pays hôte, a l'avantage du public, mais aussi l'inconvénient de la pression négative qui accompagne l'obligation de résultats. Un succès initial dans son match d'ouverture peut contribuer à lancer sa mécanique. Les Camerounaises, toujours bien placées, mais jamais gagnantes, ont à cœur de transformer cette fois-ci l'essai, à commencer par sortir de la phase de poule pour continuer à rêver. Elles en ont les moyens et le mental. Si les Malgaches joueront sûrement un rôle de faiseuse de reines, en accrochant les imprudentes qui commettront l'erreur de les négliger, les Ivoiriennes, elles, ont bien les moyens de se fondre dans la peau agréable du troisième larron de la fable qui a su saisir Maître Ali Boron en passant devant, au nez à la barbe, des prétendues favorites. Une chose est certaine, l'ambiance sera chaude dans ce groupe C où le public viendra toujours nombreux, soit pour encourager les Lions, soit pour décourager les concurrentes directes. Match à déconseiller aux cardiaques.
L'Angola, triple tenant du titre, est logé dans le groupe A avec l'Algérie, le Cap-Vert et la RDC. Valdo, les Léopards handballeuses vont devoir jouer gros pour sortir de cette poule relevée.
Les filles de la RDC doivent jouer gros, Élisée, et surtout avoir du caractère devant l'Angola. Tenant du titre et favori de cette compétition qui demeure imperturbable devant ses adversaires lors des phases finales des CAN, les Léopards handball dames de la RDC savent que rien ne leur sera facile dans ce groupe. Elles qui arrivent à se faire une place sur le podium depuis 3-4 éditions déjà, celle-ci est l'occasion de revenir en force après s'être fait gommer du trio des têtes lors de la dernière édition sortie en quart par l'Angola. Il faudra donc hausser de niveau pour aller le plus loin possible. Il faudra d'abord tout miser afin d'être à la hauteur de l'Algérie qui n'est pas du tout moindre dans cette compétition. Classée 9e lors de la dernière CAN, les Cap-Verts qui a tout à gagner lors de celle-ci visent certainement à améliorer son classement et pourrait être difficile à jouer.
Enfin, le groupe B réunit le Maroc, l'Égypte, la Tunisie, le Congo et la Guinée. Amine, les Marocaines auront fort à faire dans un groupe homogène.
Marocaines ne sont pas, bien évidemment, dans un groupe assez facile. Il faut dire aussi qu'elles partent avec le statut de trouble fête dans cette compétition, eu gare à leur manque d'expérience, au fait que l'équipe nationale féminine n'a jamais été un foudre de guerre au niveau du handball africain. Et il faut aussi se rendre compte que le groupe avec des nations comme la Tunisie, qui a plus de vécu, qui a déjà atteint les demi-finales de la compétition, le Congo, qui a déjà participé à la dernière Coupe du Monde d'handball, ou même la Guinée, ce sont des adversaires qui risquent de poser de très sérieux problèmes à des Marocaines qui n'ont pour préparation qu'un rassemblement en banlieue parisienne et un tournoi où elles ont disputé 3 rencontres amicales. Il va falloir plus de rodage, plus d'automatisme pour pouvoir, je dirais, viser plus haut. L'objectif, c'est d'acquérir le maximum d'expérience et pourquoi pas gagner 1 à 2 rencontres dans cette poule.
Merci. Pour être au complet, la 25e édition de ce championnat d'Afrique des nations féminines se déroule du 9 au 19 novembre prochain à Dakar. Mais en attendant, on joue le championnat d'Afrique des clubs champions hommes et dames à Hammamet et Nabeul en Tunisie. Et belle entame des cadors qui ont réussi jusque-là un sans-faute. Fortune diverse par contre pour les clubs camerounais. Jules, et seules les dames des FAP et de TKC se comportent bien.
En fait, Élisée, c'est une vérité cardinale reconnue en matière de handball au Cameroun qui veut que depuis des lustres, les dames défendent mieux les couleurs du pays que les hommes régulièrement refroidis par les représentants du nord du continent. Par contre, les dames, depuis près de 5 décennies, participent aux joutes au sommet face aux Congolaises et Angolaises, par la suite aux Nigérianes, Ivoiriennes et Nord-Africaines. Les équipes de Kami Toyota et Kamship en ont été les porte-flambeaux jusqu'aux années 90, avant de passer le relais au FAP accompagné du TKC. Leur performance satisfaisante en ce début de championnat de club en Tunisie n'en est que la confirmation. Alors, réussiront-elles à confirmer une place de seconde nation derrière les Angolaises ou même à opérer une révolution de palais? Ce qui est certain, c'est que les joueuses camerounaises locales ont trouvé l'occasion de s'illustrer en vue d'une sélection possible pour la CAN au Sénégal.
Voilà, les deux représentants béninois, Floès, hommes et dames, n'y arrivent pas aussi. Aucun match remporté jusqu'à présent. Lawal, c'était prévisible.
Non, Élisée, il faut reconnaître que le handball au Bénin n'est pas de bonne facture. Et c'est juste Floès qui surplante les autres clubs, mais n'a pas le niveau africain pour jouer des compétitions africaines. Donc, il faut que les autorités du handball au Bénin puissent mettre les petits plats dans les grands afin d'avoir un championnat assez important, assez professionnel, et offrir les opportunités aux clubs de mieux se porter en Afrique. La prestation de l'équipe n'est pas de bonne qualité, malheureusement, et ça se ressent sur la forme du moment de cette équipe.
Voilà, il y a une chance de qualification et ça concerne les hommes. Et pour y arriver, il faudra battre la jeunesse sportive de Kinshasa. Valdo, même condition pour le club quinois.
Au vu de ce que ces deux clubs offrent comme parcours dans cette compétition, du moins jusque-là, Élisée, il est bien évident que le face-à-face du mercredi 5 octobre entre les deux sera décisive pour la survie de l'un ou de l'autre au prochain tour du championnat d'Afrique des clubs champions. Les handball, messieurs, la jeunesse sportive de Kinshasa, représentant de la RDC, dans cette prestigieuse compétition des clubs de handball, s'est repris in extremis lors de sa deuxième sortie en l'emportant d'un petit but seulement sur les Algériens d'SN Touta 26-25 après la défaite lors de la première journée 30-43 face à l'Espérance, alors que l'adversaire de son côté n'a pas fait mieux, pourvu que le club de la RDC puisse se reprendre de plus belle en allant chercher à retrouver les derniers carrés comme lors de la 40e et 41e édition et pourquoi pas prétendre au mieux.
Merci Valdo. À noter que la compétition prendra fin dimanche prochain. Sporama qui s'achève. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous pour un autre numéro. Au revoir.